Je vous propose de commencer maintenant partager cette prière qu'on va lire ensemble, si vous la voyez bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame du Rosaire, Immaculée Vierge Marie, fais que la récitation de ton rosaire soit pour moi chaque jour, au milieu de mes devoirs multiples, un lien d'unité dans les actes, un tribut de piété filiale, une douce récréation, un secours pour marcher joyeusement dans les sentiers du devoir. Fais surtout, ô Vierge Marie, que l'étude de tes mystères forme peu à peu dans mon âme une atmosphère lumineuse, pure, fortifiante, embaumée, qui pénètre mon intelligence, ma volonté, mon cœur, ma mémoire, mon imagination, tout mon être. Ainsi contracterai-je l'habitude de prier en travaillant, sans le secours des formules, mais par des regards intérieurs, d'admiration et de supplication, ou par les aspirations de l'amour. Je te le demande, ô reine du Saint-Rosaire, par Dominique, ton fils de prédilection, l'insigne prédicateur de tes mystères et le fidèle imitateur de tes vertus. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, eh bien, mes chers amis, chers frères et sœurs, je suis très très heureux de vous retrouver à Lourdes, vous qui êtes tout près de la grotte de Notre-Dame du Rosaire, de Sainte Bernadette, et puis vous tous qui êtes en ce moment sur Internet. Eh bien, vous êtes bien à la conférence du frère Thomas de Gabory, tu étais malade et je t'ai visité. Alors, permettez-moi juste de me présenter rapidement. Donc, je suis le frère Thomas, et dominicain, prêtre de la province du sud de la France, de Toulouse, et puis assigné actuellement, envoyé en mission actuellement dans la province du Canada. Donc je vous parle actuellement depuis Ottawa. Voilà, j'ai cette particularité d'être médecin, d'avoir une spécialité dans le virus du sida. Alors, je ne suis pas un expert du coronavirus, je ne suis pas le professeur Didier Raoult, mais j'ai une expérience en virologie, notamment dans le virus du sida. J'ai surtout accompagné plusieurs années des personnes en fin de vie dans plusieurs pays, et notamment ces dernières années aux Philippines, à Manille, puisque j'ai, avec une fondation qui s'appelle ANAC, créer une maison d'accueil pour les personnes en fin de vie qui sont dans les rues de Manille. Et puis, voilà, j'étudie surtout en éthique médicale, et c'est ce que je fais ici à Ottawa, dans l'université des Dominicains ici, où j'enseigne. J'étudie surtout la relation médecin-malade. Il semble important de réfléchir ensemble aujourd'hui sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 pour notre foi aujourd'hui, pour notre société aujourd'hui, et puis aussi dans notre relation à la médecine, aux soignants, aux médecins. Voilà les questions que je voudrais me poser avec vous aujourd'hui. Pourquoi je le fais? C'est parce que ça fait des années que j'y réfléchis et que la pandémie a été l'occasion vraiment de le mettre par écrit. Donc, c'est un livre que je publie et qui sort demain, mais qui est disponible dès aujourd'hui au Rosaire, à Lourdes. Ce livre s'appelle « Tu étais malade et je t'ai visité », donc le nom de la conférence d'aujourd'hui. C'est publié au CERF. Et dans ce livre, j'essaye de réfléchir. C'est un livre très simple. Hein. Moi, je suis quelqu'un de simple. Alors, c'est un livre qui se lit facilement, qui est petit, mais où j'essaye de réfléchir sur la place et la mission de la médecine aujourd'hui, dans un regard croyant, dans une perspective chrétienne, à savoir, si je crois en un Dieu qui est miséricorde et qui peut nous guérir, alors que puis-je attendre de la médecine? Quelle est sa mission? Est-ce que la médecine peut nous guérir? Est-ce qu'elle peut simplement nous soigner ou est-ce qu'elle peut même nous sauver? Voilà les questions simples, mais je crois très importantes pour aujourd'hui. Et je crois que la pandémie nous a permis d'initier ces questions et j'essaye d'y répondre dans ce livre tout humble, tout facile. Voilà, tu étais malade et je t'ai visité au CERF. Voilà, eh bien, cette conférence, en fait, au lieu de l'intituler « Tu étais malade et je t'ai visité », je crois qu'on aurait pu lui donner un autre titre, c'est « Tu étais malade, mais je n'ai pas pu te visiter ». Voilà toute la problématique de la pandémie. Et c'est sur cela que je veux m'interroger. Voilà, je pars de deux constats. Le premier, c'est qu'en France, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on comptabilise au printemps 2020, au plus fort de la pandémie, 10 000 morts de nos personnes âgées, de nos anciens, dans les maisons de retraite. Ici, au Québec, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas à se glorifier de quoi que ce soit ou à se culpabiliser. Dans les EHPAD d'ici, ce que l'on appelle les CHSLD, on compte 3 000 morts pour le Québec. Mais surtout, le constat que je fais, c'est cette interdiction, pour la première fois de l'histoire, je dirais, interdiction de toute visite dans nos maisons de retraite. Nos personnes âgées se sont retrouvées isolées, confinées, comme nous, mais sans aucune visite des familles, de l'entourage et des proches. Alors cela a bien sûr entraîné des souffrances, souffrances des personnes âgées elles-mêmes, parce que elles ont souffert de solitude, tout simplement. Et je crois que pire que la maladie, la solitude est la pire des souffrances. Souffrance des familles et des entourages, parce que dans les familles, on a pu se rendre compte d'une vraie culpabilité, d'un sentiment d'abandonner ses proches, d'abandonner ses parents et ses grands-parents. Et puis aussi, souffrance des soignants eux-mêmes. Qui ont, c'est les témoignages que j'ai pu récolter, hein, puisque je travaille avec eux, l'impression d'un travail mal fait, d'une mission non accomplie et d'un sentiment d'impuissance pendant cette pandémie. Donc, vous voyez, beaucoup de souffrances dues à des mesures exceptionnelles d'isolement, de confinement. Le deuxième constat, c'est un peu plus difficile, mais c'était aussi en France et dans d'autres pays, aussi ici au Canada, c'est l'obligation que des établissements spécialisés pour accueil de personnes avec handicap mental, obligation qu'ils ont eue d'enfermer à clé des patients qui étaient positifs à la COVID-19, donc contagieux. Eh bien, ces personnes avec handicap mental ou psychiatrique sévère, voire très sévère, se sont retrouvées enfermées à clé dans leur chambre sans avoir vraiment la capacité de comprendre l'intérêt de ces mesures. Eh bien, ces mesures exceptionnelles ont provoqué là aussi des souffrances chez les patients, donc ils n'avaient pas cette capacité de comprendre les mesures extrêmes qui ont été prises en urgence pendant cette pandémie. Et puis, bien sûr, souffrance des soignants et des travailleurs sociaux, hein, puisque dans ces maisons spécialisées pour personnes handicapées, il n'y a pas que des soignants, il y a aussi des travailleurs sociaux, eh bien, grande souffrance, et ceux-là ou celles-là ont dit, on a été obligé de prendre des mesures extrêmes d'enfermement à clé des patients, alors que ces mesures allaient contre nos valeurs de soignants. Jamais de notre vie, nous nous étions préparés à de telles mesures, et jamais de notre vie, nous avions pu penser, au cours de nos études ou de notre jeunesse, être arrivés à cette extrémité d'enfermer à clé des patients contre leur volonté et même parfois sans avoir le temps de leur expliquer. Voilà ces deux constats qui sont mes deux constats du début. Eh bien, moi en tant que chrétien et nous tous ici, nous toutes en tant que chrétiens, je crois qu'il faut s'interroger sur ces mesures. Je pense à la parabole du bon samaritain. Vous savez, un homme est laissé à demi-mort, à même le sol, un prêtre passe mais s'en va, un lévite passe mais s'en va, et le samaritain le voit, il est ému de compassion, il se penche sur lui et il en prend soin. Eh bien, la question finale de Jésus, c'est lequel des trois a été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands. Je dirais, Jésus nous pose cette question au cœur de la pandémie. Qui a été le prochain de ces personnes laissées isolées et enfermées dans nos maisons de retraite et dans les maisons spécialisées pour personnes en situation de handicap? Qui a été le prochain? Eh bien, pas nous, puisque nous avions l'interdiction de visiter nos proches. Et je dirais, la question, c'est savoir que les professionnels de santé eux-mêmes sont devenus les prochains des personnes vulnérables en maison de retraite. Donc, une question que l'Évangile nous pose en pleine face, je dirais. Avez-vous été le prochain? Mais on a envie de répondre, on n'a pas pu être le prochain de ceux qui étaient enfermés dans les maisons de retraite. Ils étaient malades et nous n'avons pas pu les visiter. Et la deuxième réflexion en tant que chrétien, c'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, évidemment. Jésus nous dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Voilà, moi, pour mon livre, j'ai voulu inverser ce verset magnifique de l'Évangile de Matthieu pour qu'il concerne plus spécifiquement les professionnels de santé. Mais voilà ce que nous dit Jésus. J'étais malade et vous m'avez visité. Et il dit à l'inverse, à ceux qui ne sont pas sauvés, j'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors voilà, comme chrétien, eh bien, la question c'est, mais que fallait-il faire? Cette solitude qui est souffrance n'est pas une valeur de l'Évangile. Alors, je vous le confie, hein, moi-même, si j'avais été en France et si mes parents ou mes grands-parents avaient été enfermés en maison de retraite, alors c'est mon côté un peu provocateur et un peu extrême, mais moi, clairement, j'y serais allé de force la nuit. J'aurais cassé un carreau, je serais allé les chercher et je me serais occupé d'eux. J'aurais jamais supporté de les voir isolés en maison spécialisée. Alors, je dirais, voilà ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, plus jamais ça. Plus jamais ça. Alors, réfléchissons maintenant à ce qu'il faudrait faire si une situation semblable se représentait à nous. Eh bien, voilà, pour une première partie de ma réflexion, je voudrais d'abord commencer, non pas par me plaindre, mais surtout par regarder le positif qu'il y a eu au cours de cette pandémie. Parce qu'il y a eu du positif, et je crois qu'il est bon de voir ce qui a été bon et de s'interroger à partir de ce qui a été bon. Alors, je commence trois constats de choses qui me paraissent avoir été excellentes pendant ce printemps 2020, pendant cette première vague de coronavirus. Eh bien, la première chose que je constate, c'est que pour une fois, et peut-être pour la première fois de l'histoire, l'économie du pays est passée au second plan. Cela signifie que les personnes vulnérables et leur santé sont passées au premier plan, mais en priorité par rapport à l'économie. Quitte à provoquer une peut-être des plus grandes crises économiques que le pays et le monde n'aient jamais connues. Voilà ce qui est positif. Pour une fois, l'économie est passée après, la dignité même des personnes en situation de vulnérabilité ou de fragilité. Eh bien, c'est un point positif et je crois que c'est bien de le souligner. Le deuxième point, c'est peut-être plus cocasse, mais je crois que il y a eu des actes d'altruisme au cours de ce printemps 2020 et c'est beau d'insister dessus. L'acte d'altruisme qui saute aux yeux, je dirais, c'est le port du masque. Le fait de porter un masque, c'est pas tant pour se protéger soi-même que pour protéger les autres. Eh bien, porter le masque, c'est penser à l'autre, c'est presque se faire le prochain de l'autre, parce que c'est le respecter en tant qu'être humain vulnérable et lui dire « je ne veux pas être une source potentielle de dangerosité pour toi ». Et aussi, dans ces actes altruistes, on pourrait remarquer que les jeunes se sont sacrifiés pour les personnes les plus vulnérables de la société, au premier rang desquelles les personnes âgées. Et oui, parce que les jeunes sont moins sensibles au virus, alors le fait de s'isoler, de se confiner, de prendre le risque d'être au chômage, c'était aussi et surtout pour protéger les parents, les aînés, les personnes âgées. Voilà un autre point positif de ce printemps 2020, de cette première vague de coronavirus. Et le troisième élément positif, eh bien, c'est une petite erreur que j'ai faite pendant la présentation de cette conférence, mais c'était volontaire, c'est de dire que nos personnes âgées en EHPAD sont mortes seules. Eh bien non, justement, les personnes âgées de nos EHPAD ne sont pas mortes seules, mais elles ont été accompagnées par des professionnels du soin, par des professionnels de santé, par ce qu'on appelle les soignants. On les a même appelés les héros soignants, expression quand même étonnante. Et ces soignants que le monde applaudissait chaque soir à 20h. Eh bien, ces professionnels étaient présents au chevet des personnes âgées qui mouraient, celles qui étaient seules, mais seules, isolées de leur entourage, isolées de leur famille, mais pas totalement dans la solitude, puisque des professionnels de santé étaient là pour faire leur métier, pour accomplir leur mission de soignant, et certains même, alors c'est une mesure extrême qui peut interroger aussi, mais certaines équipes de professionnels ont même décidé dans certains EHPAD de s'isoler, de se confiner avec les résidents. Bien, vous voyez, moi ça m'interroge beaucoup, puisque je suis médecin, puisque je suis prêtre, puisque j'ai beaucoup réfléchi sur cette notion de vocation, eh bien je me dis, c'est beau de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui, par vocation professionnelle, sont prêts, par générosité, à se donner auprès des personnes les plus vulnérables pour en prendre soin, et parfois jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Voilà ces trois points positifs que je voulais souligner, puisque parfois on a tendance plutôt à se plaindre et à voir le négatif. Eh bien voilà, sachons comme chrétiens voir ce qui est positif dans ce qui a été fait. Et puis maintenant, interrogeons-nous. Interrogeons-nous comment une société, notre société, qui a des racines chrétiennes, fondamentalement chrétienne, et comment cette société est capable de mettre la personne vulnérable au premier plan, comment cette société altruiste est capable d'en arriver à enfermer des personnes vulnérables dans le but de protéger leur santé. C'était un but louable, mais les moyens étaient discutables. Alors, il faut dire et rappeler qu'en période de crise, et en période d'urgence, en contexte d'urgence, il fallait enfermer les personnes vulnérables pour les protéger. C'était une question de santé publique, de protection de la santé communautaire. Il fallait le faire. L'urgence ne permet pas la réflexion éthique. L'urgence ne permet pas la réflexion éthique. Donc il ne faut pas dire « il ne fallait pas faire ça ». Je crois qu'il était bon de le faire, il fallait le faire. Et là aussi, c'est un point positif. Mais la question, c'est, ne sommes-nous pas allés un peu trop loin? Parce que le contexte d'urgence, c'est quelques jours, mais ce n'est pas quelques mois. Et je dirais qu'aujourd'hui que nous vivons cette deuxième vague, j'ai l'impression, en tout cas, nous, ici au Canada, c'est exactement ce qu'il se passe, c'est qu'ici, dans les maisons de retraite, on reprend les mêmes mesures d'enfermement des personnes, d'interdiction des visites. J'avais très envie de vous faire voir, j'espère que ça va marcher, je vais vous partager mon écran, vous allez voir, c'est un peu le bazar sur mon écran, mais je voulais vous faire voir, c'est un de mes frères d'Ottawa qui dit la messe dans une maison de retraite, et je voulais vous faire voir, voilà, la tenue qu'on nous oblige de mettre en ce moment pour dire la messe en maison de retraite. Eh bien, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'en contexte d'urgence, on peut comprendre ce type de réaction, de mesures d'urgence, mais plusieurs mois après la première vague, alors que nous vivons, nous ici, au Québec et au Canada, la deuxième vague, que les personnes sont de nouveau isolées, en solitude, dans les maisons de retraite, on nous impose encore les mêmes mesures. Eh bien, c'est là où je me dis qu'il y a un problème et qu'on aurait dû réfléchir avant, on avait la capacité de réfléchir avant, pour ne pas que se reproduisent les mêmes souffrances, les mêmes solitudes. Alors, deux parties à cette petite conférence, tout simplement. La première question, c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et la deuxième question sera tout simplement, eh bien, que faut-il faire maintenant ou que faudrait-il faire maintenant si la deuxième vague était pire que la première? Voilà, donc deux parties et j'aborde maintenant la première. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi notre société qui se dit si altruiste et qui est parfois altruiste, pourquoi cette société qui est capable de mettre la personne vulnérable au premier plan en priorité par rapport à l'économie, pourquoi on en est arrivé à provoquer des souffrances inouïes de certaines personnes qui sont mortes en solitude et des personnes enfermées. Eh bien, je dirais que la réflexion, et c'est ce que j'essaye de réfléchir dans le livre dont je vous parlais hein, tout à l'heure, « Tu étais malade et je t'ai visité », je crois que c'est en fait très simple, c'est qu'une société qui ne croit plus au salut, c'est une société qui met son salut dans la santé. J'essaie de vous expliquer ça. Voyez, nous, on a la foi ici. On est à Lourdes, on est près de la grotte avec Notre-Dame du Rosaire. Le salut, on sait ce que c'est. Les chrétiens savent ce qu'est le salut. Entre parenthèses, on en parle quand même de moins en moins. Et en prédication, en homélie, moi, j'aimerais entendre parler du salut beaucoup plus souvent. Mais enfin, on y croit. D'ailleurs, on est là pour ça. On espère le salut. Le salut, c'est vraiment cette vie qui nous est offerte dès le baptême, une vie avec Dieu, une vie d'éternité qui commence au baptême et qui ne finira plus jamais. Eh bien, notre foi dans le salut nous permet d'entrevoir la mort non pas comme une fin, mais comme un passage qui nous introduit pleinement dans ce salut, dans cette vie lumineuse avec Dieu. Bon, voilà le salut. Eh bien, une société qui a oublié Dieu, qui met Dieu de côté, qui ne croit plus en Dieu, c'est une société qui ne croit plus au salut, pour qui la mort n'a plus de sens, et pour qui la mort est une fin, et une fin tellement monstrueuse et tellement angoissante qu'on la met de côté, qu'on n'y pense pas. La mort, on l'expose sur Facebook, on l'expose sur YouTube, on aime voir celle des autres, mais on ne pense jamais à la sienne. Voilà. C'est tout bête, c'est tout simple de réfléchir comme ça, mais je crois que c'est très vrai. Une société qui ne croit plus en Dieu, une société qui a mis Dieu de côté, et je peux vous dire qu'au Canada et au Québec, ici, c'est quand même assez impressionnant. Dieu n'existe plus ici pour les gens. Eh bien, c'est une société qui met son salut non pas en Dieu, mais une société qui met son salut dans la santé, et notamment dans la santé du corps. Et donc, quand je ne crois plus au salut et je ne crois plus qu'à un seul salut, c'est ma santé du corps, ma santé physique. Alors, la santé physique devient une valeur absolue. Bien, notre société, avouons-le, a caché la mort. Ce que l'on appelle la finitude humaine, c'est-à-dire le fait que nous sommes des mortels. Cette finitude de l'être humain, cette finitude humaine, elle est totalement niée dans notre société. Eh bien, face à ce déni de la finitude humaine, nous sommes conduits dans une angoisse collective, dans une folie hygiéniste, au risque d'imposer des fins de vie solitaires aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, sous prétexte de protéger leur santé et leur santé physique. Cette expression de folie hygiéniste, je l'emprunte à Marie de Henzel, que vous connaissez sûrement, donc je ne veux pas me l'approprier, c'est elle qui parle de folie hygiéniste, et je crois qu'elle a raison. Lorsque je vous faisais voir la photo de mon confrère dominicain d'Ottawa qui va dire la messe, j'espère que vous l'avez vu, hein, qui a célébré la messe dans une tenue de cosmonaute en maison de retraite, on tombe dans une folie hygiéniste. Eh bien, je ne suis pas en train de vous dire que parce que nous avons la foi, parce que nous croyons au salut, il faudrait que nous prenions des risques déraisonnables d'enlever nos masques parce que nous avons la foi, de visiter nos personnes âgées et vulnérables en maison de retraite parce que nous croyons au salut. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis l'inverse, je dis quand on ne croit plus au salut, quand on n'a plus la foi, quand Dieu n'existe plus pour nous, eh bien notre seul espoir sur terre, c'est la santé du corps, et nous prenons des mesures extrêmes, déraisonnables, démesurées, pour protéger la santé du corps à tout prix. Et tout est dans ce « à tout prix ». Lorsqu'on a vraiment l'espérance du salut, alors bien sûr, on met un espoir dans la santé. Mais tout mon espoir n'est pas dans ma santé du corps. Vous voyez, c'est une question d'équilibre et de juste mesure, comme d'habitude. Donc, lorsque Dieu s'en va, lorsque le salut n'est plus espéré, on se raccroche à la santé du corps à tout prix. Et c'est pour cela, et c'est là le deuxième point, si vous voulez, c'est dans ces conditions-là, dans ces mentalités-là, dans ces croyances ou dans ces absences de croyances-là, qu'on en vient à demander aux soignants ce qu'ils ne peuvent pas donner. Et c'est pour cela que je m'interroge sur la mission des soignants, ce que j'appelle la vocation des soignants. Vous savez, dans les milieux médicaux, dans les milieux des infirmières, des aides-soignants, des aides-soignantes, on n'aime pas trop parler de vocation parce que ça fait un peu religieux. C'est un mot du domaine religieux. Eh bien, moi, je suis prêtre et médecin, alors j'ose employer ce mot de vocation parce que j'y crois profondément. Et vous le verrez dans le livre, c'est vraiment un concept que j'essaye de comprendre, cette expression de vocation médicale. Eh bien, vocation correspond à mission. Quelle est la mission du soignant? Normalement, c'est voilà, de guérir les personnes malades, au moins d'en prendre soin. Mais justement, dans un contexte où l'on ne croit plus en Dieu, eh bien, on va demander aux soignants ce que, normalement, dans la foi, on demanderait à Dieu, c'est-à-dire le salut. Eh bien, lorsqu'on en arrive à demander le salut aux soignants, on en arrive à prendre des mesures folles, de rentrer dans cette mentalité hygiéniste folle et des mesures démesurées, déraisonnables, pour protéger à tout prix la santé du corps sans l'espérance du salut. Eh bien, pour s'interroger tout simplement sur cette notion de vocation médicale, parce que vous voyez bien que finalement, on en arrive à cette conception-là, à cette question-là de la vocation médicale, je vous propose tout simplement de réfléchir rapidement sur la parabole du bon samaritain. Tout est dans l'évangile, et l'évangile du bon samaritain nous dit ce que doit être la vocation du soignant, du médecin, de l'infirmière, de l'infirmier, du soignant. Eh bien, rappelez-vous, hein, je vous l'ai rappelé en introduction, le contexte de cette parabole du bon samaritain, c'est donc un homme laissé à demi-mort, le prêtre, pas très exemplaire, qui le voit et qui s'en va, le lévite, pas très exemplaire, qui le voit et qui s'en va, et enfin le samaritain, c'est-à-dire cet étranger, qui le voit, mais contrairement aux autres, il est pris de pitié, il est pris de compassion. Permettez-moi de vous lire juste ce passage très court de la parabole du bon samaritain. C'est l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 33 à 37. Un samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme laissé à demi-mort. Il le vit et fut pris de pitié. Il fut saisi de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Bien, vous voyez, cette parabole, elle est magnifique, hein, elle est splendide. Premièrement, le Samaritain, contrairement aux autres, il est pris de compassion, il est saisi de pitié. Eh bien, vous voyez le sens de la médecine, la mission de la médecine, la vocation de la médecine, elle prend sa source dans ce sentiment de compassion. Lorsque je vois la souffrance de l'autre, lorsque je vois la solitude de l'autre, je suis pris de pitié, c'est-à-dire de compassion, dans mon cœur. Et tout le soin qui s'ensuit prend racine dans cette compassion-là, dans un sentiment qui va devenir vertu et vertu des soignants. C'est pour cela qu'il me semble que la première vertu des médecins et des soignants en général, c'est la compassion. Le Samaritain se penche sur l'homme blessé. Premier geste, conséquence de la compassion. Le sentiment de compassion devient vertu de compassion. La vertu de compassion devient acte de compassion, geste de compassion. Il se penche sur l'homme blessé. Rappelez-vous, hein, les prêtres, le lévite, ils se cassent, ils s'en vont, ils rentrent chez eux. Mais le samaritain, lui, il est pris de compassion, il est saisi dans son cœur, et le geste qui en découle, c'est un geste de compassion. Et qu'est-ce que dit l'Évangile ? Il en prend soin. Et ça, c'est très très beau. Ça veut dire que prendre soin de quelqu'un prend sa source dans la compassion. Encore une fois, la vocation médicale part de la compassion. Qu'est-ce qu'il fait ? Il verse de l'huile et du vin. Il fait des bandages. Et deuxièmement, il en prend soin vraiment. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, faire des bandages, verser de l'huile et du vin, c'est un acte technique, médical. C'est un acte technique que font les soignants, faire des pansements. Bon, eh bien ensuite, il prend soin de l'homme blessé. C'est très beau, ça veut dire que l'acte de prendre soin ne se limite pas à l'acte technique. Faire un bandage, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Eh bien, ce que nous dit l'évangile de la compassion, la parabole du bon samaritain, c'est que prendre soin de quelqu'un qui est souffrant, c'est bien sûr faire un acte technique, mais c'est surtout un acte relationnel. Ça veut dire que la relation elle-même que j'établis entre quelqu'un qui souffre et moi-même, entre le médecin et le malade, entre le soignant et le patient, cette relation-là, elle est déjà un soin. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Hein ? Je pense que trop souvent, prendre soin, pour nous, se résume à un acte technique qu'un robot médical pourrait faire, à notre place d'ailleurs. Eh bien non, la médecine ne se limite pas à une seule technique. La médecine, c'est aussi, et peut-être surtout, un acte de relation qui vient, qui surgit de la compassion, c'est-à-dire d'un sentiment qui devient vertu et qui se transforme, qui se concrétise, qui se réalise dans un acte. Eh bien, alors, j'ai un petit message de frère Jean-Baptiste. Voilà, très bien. Donc, j'arrêterai. Très bien. Message reçu. Est-ce que vous m'entendez ? Si vous m'entendez, vous me faites comme ça ? C'est bon, voilà. Magnifique. Alors, c'est très bien. Alors, je pense que c'est le plus important ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Hein. C'est la médecine ne se résume pas à une technique, à des soins techniques. C'est très bien de faire des beaux pansements, c'est très bien d'opérer par robot des prothèses de hanche, mais la médecine, elle prend racine, elle prend sens, elle prend tout ce que vous voulez dans la compassion, et elle doit se traduire par des gestes de compassion qui sont en fait des actes de relation, des liens sociaux, des liens de relation entre des équipes soignantes et des malades, et entre des patients et des équipes soignantes. Voilà. Je m'énerve un peu, mais c'est quand je m'énerve, c'est que je suis convaincu de ce que je vous dis, vous voyez ? Donc, je le redis, le plus important, c'est de considérer la personne humaine comme un être de relation et non pas seulement comme un corps. Voilà le nœud du problème. C'est que quand on considère que la personne humaine est un corps, eh bien, on la soigne comme un garagiste soigne une voiture ou comme un horloger répare une montre ou une horloge. Eh bien, la personne humaine, ça n'est pas qu'un corps. La personne humaine, c'est un être de relation, une personne dans sa globalité, j'allais dire, qui a besoin pour vivre d'une vie humaine, d'un entourage aimant, de soignants aimants et d'un réseau de relations autour d'eux. Parce que la relation, c'est déjà un soin. Le bien-être de la personne humaine ne se résume pas dans sa santé physique. Le bien-être de la personne humaine n'est pas uniquement la santé de son corps, mais c'est surtout et avant tout le bien-être social, relationnel. J'ai besoin pour vivre ma vie humaine de liens humains avec un entourage, une famille, des amis, et quand tout cela ont interdiction de rentrer dans ma chambre, avec des soignants. Donc, être soignant, avoir la vocation médicale, c'est pas nécessairement être appelé par Dieu dans son métier de médecin ou de soignant, mais c'est surtout faire surgir sa pratique de soins, de la compassion, et la traduire dans des actes de relation, des liens sociaux et des liens humains avec les patients. Voilà. Eh bien, je crois que pendant la pandémie, pendant le printemps 2020, la santé du corps, la santé physique est devenue une valeur absolue au prix même de la relation. Eh bien, c'était là l'erreur. Voilà, permettez-moi de passer maintenant à mon dernier point, qui est le deuxième point, mais qui sera beaucoup plus simple et où je ne m'énerverai pas, je vous promets. C'est le « que faut-il faire maintenant si tout cela se reproduit ?» Je vous disais tout à l'heure qu'au Québec, nous sommes à Montréal encore confinés pour 28 jours, donc c'est parce que c'est la deuxième vague, donc nous avons interdiction d'aller dans les maisons de retraite. Alors moi, je suis à Ottawa, qui est à 200 mètres du Québec, donc c'est déjà plus simple. Mais bon, voilà, que faut-il faire ? Que faut-il faire si cela se reproduit ? Eh bien, je vous propose ces petites réflexions toutes simples. Et d'abord, ces questions. Faudrait-il autoriser toutes les visites au risque de contaminer les personnes vulnérables ? Voilà. Faudrait-il ne pas enfermer les personnes contagieuses à la COVID sous prétexte de préserver leur liberté individuelle ? Eh bien, je crois que non. Il ne faut pas tomber dans un excès inverse, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on croit au salut et qu'on croit que la santé du corps n'est pas le seul bien-être de la personne humaine, qu'il faut se dire « j'enlève mon masque, je vais voir mes grands-parents en maison de retraite, et puis tant pis, on a la foi ». Non, il faut être mesuré, et parce qu'on a la foi, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais je dirais, ce qui est inhumain, ce qui n'est pas chrétien, ce qui est anti-évangélique, c'est la solitude. Et c'est contre la solitude qu'il faut se battre. Parce que la solitude, moi je crois, pourtant j'ai été médecin en cancérologie, en soins palliatifs, j'ai vu beaucoup de souffrances, j'ai vu des douleurs, mais le pire de tout, c'est quelqu'un qui meurt seul, dans la solitude. Alors j'oserais dire que la solitude est la pire des souffrances, et je crois que je ne me trompe pas. Eh bien, ce qu'il faut combattre, c'est la solitude. Et il ne faut plus arriver à dire « tu étais malade, mais je n'ai pas pu te visiter ». Moi, je veux que mon titre de livre soit une valeur de l'Évangile. Tu étais malade et je t'ai visité. Et j'ai pu te visiter et j'ai accompli ma mission de famille, de fils, de petit-fils, d'ami auprès de toi qui souffrais. Et j'étais là. Et comme soignant, j'étais là aussi, vous voyez ? Donc, comment se battre contre l'isolement si une deuxième vague resurgissait ? Voilà la réflexion. Eh bien, je propose tout simplement, et c'est tout simple, et j'invente rien finalement, mais pour les personnes dont je vous parlais, qui étaient enfermées à clé dans leur chambre, avec handicap psychiatrique très lourd, ce sont des maisons spécialisées pour adultes handicapés sévères, ou avec handicap mental très lourd, eh bien, l'isolement est nécessaire, bien sûr. Et bien sûr que ces personnes qui n'ont pas les moyens de comprendre, il faut les enfermer à clé, pour ne pas qu'elle soit contagieuse auprès des autres résidents et auprès du personnel soignant et auprès des travailleurs sociaux. Mais, vous voyez, je prends l'exemple dans un centre pour personnes avec handicap qui est à Senon, près de Bordeaux. Eh bien, l'équipe soignante a pris cette décision, c'est tout simple, mais de faire le tour par le jardin et d'aller à travers la fenêtre à l'extérieur, faire bonjour et pouvoir parler à la personne enfermée à clé pour établir un lien de relation, un lien social avec elle. Vous voyez, c'est tout petit, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est tellement mieux que rien. C'est tellement mieux que rien. Bon, et bien ensuite, vous voyez, moi ici, je suis professeur. Alors, j'enseigne dans une université, c'est génial, mais sauf que les étudiants, ils sont tous comme vous aujourd'hui par Zoom. Alors, on n'a aucun étudiant, comme on dit maintenant, en présentiel. Alors, c'est le nouveau mot à la mode. On n'est pas en présentiel, mais on est en virtuel. Alors, très bien. Eh bien, cette technologie qui nous aide à l'université, eh bien, il serait très facile eh bien, de la transposer aux soins et d'utiliser Zoom, Skype ou n'importe quel vidéo call pour établir un lien de relation avec les personnes enfermées à clé. Vous voyez, c'est très peu, c'est pas grand-chose. Mais c'est tellement mieux que rien. Et puis ensuite, pour les personnes âgées et nos personnes vulnérables des maisons de retraite, eh bien, moi j'ai envie de dire une chose, c'est que ces mesures extrêmes qui ont engendré de la solitude étaient nécessaires parce qu'on était en période de crise et d'urgence. Nous ne sommes plus en période d'urgence. Ça fait des mois que la première vague a commencé. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans la deuxième vague, mais nous ne sommes plus en contexte d'urgence. Nous avons pu nous préparer, nous avons pu réfléchir. Nous avons eu le temps de la réflexion éthique. Eh bien, je dirais que moi, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il faut impliquer au maximum les personnes âgées, les personnes vulnérables, elles-mêmes, dans les décisions qui les concernent. C'est quand même la moindre des choses que de demander aux personnes âgées leur avis. Et il y a des personnes, ça existe, il y a des personnes âgées qui sont conscientes du risque d'une visite, mais qui sont d'accord, qui sont d'accord pour prendre le risque d'une telle visite, même si elle comporte un risque, mais parce qu'elle considère que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si c'est pour terminer sa vie avec une bonne santé physique, protégée de tout virus, mais sans lien social du tout avec la famille, avec l'entourage. Moi, je crois qu'il est important de donner la vie aux personnes qui sont concernées parce que elles sont responsables de leurs actes, de leurs décisions. Et si une personne âgée est prête à prendre le risque, pas un risque démesuré, bien sûr, mais prendre un risque mesuré de rester en contact social, en présentiel, je dirais, avec leur entourage, alors pourquoi leur refuser ? Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on a cette liberté encore de pouvoir choisir comment on veut vivre notre vie humaine. Alors, impliquer la personne âgée elle-même parce qu'elle n'est pas stupide et qu'elle peut prendre des questions, des solutions, des décisions qui la concernent, et puis également impliquer les familles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Voilà les risques, mais on peut continuer à garder ce lien si essentiel à la vie humaine et au bien-être de la personne. Voilà, en conclusion, parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais en conclusion, vous voyez, il y a deux petites expressions qui me gênent. On parle souvent de distanciation sociale, mais non, justement, il ne faut rien faire pour se distancier socialement les uns des autres. Au contraire, il faut garder des liens les plus serrés possibles sur le plan humain, sur le plan de la relation. Parce que notre vie humaine tient à cette relation humaine. Parce que notre bien-être tient à cette relation et à ces liens sociaux. Alors ne parlons pas de distanciation sociale, mais parlons plutôt de distanciation physique. Voyons-nous en présentiel, mais gardons nos distances. 2 mètres ici au Canada, 1 mètre en France, parce que le virus est moins contagieux chez vous peut-être. Bon, deuxième expression, les gestes barrières. Pourquoi on parle de gestes barrières ? Il n'y a aucune barrière entre les personnes. Je ne me protège pas d'une personne, mais je me protège d'un virus. Voilà toute la différence, vous voyez ? Je me protège d'un virus, je ne me protège pas de quelqu'un. Donc moi, je préfère non pas parler de gestes barrières, mais de gestes protecteurs. Voilà. Écoutez, je voudrais vous laisser juste sur une question. C'est que, voilà, et après je vous fais la pub pour mon livre hein, quand même, parce qu'il sort demain, donc bon, il faut le lire quand même. Mais la dernière question, c'est ça, elle est toute simple. Une vie est-elle encore une vie humaine lorsqu'elle est privée de toute relation humaine ? Voilà, c'est beau ça, hein ? Alors, donc, je vous rappelle, moi je suis très heureux de vous avoir parlé aujourd'hui. Ah, ben voilà. Alors, je ne vous entends pas, donc je fais comme en langage des signes, hein, voilà. Alors, vous savez, je reconnais quelques-uns parmi vous hein, derrière les masques. Alors, moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé vous saluer hein, les uns et les autres. Hein. C'est quand même une frustration d'avoir été bloqué ici au Canada, mais c'est une grande joie d'avoir pu vous parler. Alors, je voudrais juste remercier le frère Hugues-François Rovarino, qui est le directeur général, et puis Lionel Gentric aussi, les frères dominicains, quoi, de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. C'est vraiment une grande joie pour moi. Et puis, bon pèlerinage à vous, c'est vraiment splendide de vous voir près de la grotte. Moi, je pense à vous, je prie pour vous, Notre-Dame du Rosaire et Sainte-Bernadette. Et puis voilà, le livre sort demain, Tu étais malade et je t'ai visité au CERF. Voilà, merci beaucoup et bonne journée, bon après-midi à vous. Bye bye. Alors, Voilà, Jean-Baptiste me dit qu'il y a des questions peut-être. Alors, très bien. Prenons le temps. Effectivement, nous avons 14 minutes pour poser des questions. Alors, j'essaierai d'y répondre et puis Jean-Baptiste va me les écrire parce que je ne vous entends pas, en fait. Voilà. Alors la question semble longue, hein, parce que Jean-Baptiste met du temps à écrire. Donc... Ah voilà, alors je peux lire la question, oui, je vais vous la lire à tous. Donc c'est un médecin de Cholet qui a une tante qui n'a pas eu... Ok. Alors stop, ok. Ah oui, ok. Alors donc quelqu'un n'a pas eu le droit de visiter un malade. Malgré une chute, il y a des
Thomas, tu
EHPAD
m'entends?
avec... Oui, c'est bon, Jean-Baptiste, je t'entends très bien.
Ah, ben voilà. On termine la question
OK.
et je te la retransmets.
OK, je me tais. Alors voilà la question.
Oui, tu m'entends?
Oui, très bien.
Donc le monsieur médecin réagissait sur le fait qu'il n'avait pas pu visiter et que c'était le cas de nombreux EHPAD en France avec un droit de visite très limité et qu'il avait interagi avec les autorités du pays pour que cela change et que les choses puissent se modifier.
Eh bien, c'est exactement ça, hein. Effectivement, moi je me souviens l'histoire d'un frère dominicain, ses parents mariés depuis plus de 60 ans, en maison de retraite. Le monsieur est dans une chambre et sa femme, son épouse, est dans une autre chambre à un étage en dessous. Eh bien, pendant le confinement, on leur a interdit de se voir l'un et l'autre, alors qu'ils étaient dans la même maison de retraite. Et ils avaient pourtant l'habitude, depuis leur entrée en maison de retraite, de se voir tous les matins comme un rituel. Eh bien, ce genre de mesures extrêmes, moi, je peux les comprendre pendant 14 jours, en contexte d'urgence, parce qu'on peut se dire, bon, l'un peut être contagieux envers l'autre. Mais après 14 jours, cette mesure a été maintenue pendant 2 mois. Eh bien, c'est là où l'on tombe dans une folie hygiéniste. Et c'est bien de se battre contre ces mesures parce qu'elles deviennent déraisonnables, si vous voulez. Hein, on peut s'habiller en tenue de cosmonaute toute notre vie pour éviter d'être contaminé par un virus. Mais ça devient déraisonnable, si vous voulez. On se gâche la vie ou on gâche celle des autres. Eh bien, je suis d'accord avec vous qu'il faut gentiment, paisiblement, exposer ces mesures déraisonnables aux autorités pour qu'elles changent. Eh bien, c'est ce qui a été fait dans cette maison de retraite dont je vous parlais. Simplement, hein, on a pris contact avec, c'est pas moi, hein, mais c'est le frère en question, le fils, qui a pris un contact avec le directeur de la maison de retraite. Et en bonne intelligence, si vous voulez, Ils ont dit, bon, ben d'accord, ils pourront se voir tous les matins comme d'habitude, simplement, ils garderont une distance et puis le masque. Bon, ben très bien. Dans ces cas-là, on maintient le lien social, la relation humaine, et on permet que la vie humaine continue avec les rituels qui sont si importants pour les personnes âgées, et puis un lien social avec les personnes qu'on aime. Voilà, donc je dis à ce médecin qui pose la question qu'il a eu tout à fait raison, à mon sens, d'en appeler aux autorités pour que les mesures d'urgence évoluent en fonction du contexte et de l'évolution de la pandémie elle-même. Alors, donc je le lis, hein, ce que m'envoie le frère Jean-Baptiste. Donc, trois points de réflexion.
Je vais résumer à la fin.
Ah, ok.
Alors, pour résumer,
okay.
Trois petits points de réflexion que je vais essayer de retranscrire fidèlement pour ceux qui sont en ligne. La réaction des non-chrétiens, qui a été quelquefois plus importante, et tu donnais l'exemple de ceux qui ont brisé la fenêtre. Ensuite, l'idée de se dire « Dieu est avec lui » et de ne pas laisser souffrir les gens. Et ensuite, le troisième point, c'est surtout le fait qu'on n'ait pas entendu suffisamment l'Église réagir face à tout cela, par rapport à l'Eucharistie, par rapport aux médecins, enfin, aux enfermements, etc. Enfin, avoir une vision chrétienne, dite.
C'est très bien. Écoute, moi je réagis sur le dernier point tout de suite parce que je m'étais promis de ne pas le dire. Et puis, j'ai été un peu déçu par les messages officiels de la conférence épiscopale, effectivement, pendant le printemps 2020, où on a eu beaucoup de mesures hygiénistes très importantes, hein, je reconnais. Mais j'aurais aimé un message de fond sur qu'est-ce que peut nous dire la pandémie au cœur de notre foi. Et j'aurais aimé qu'on me parle de salut et pas uniquement de santé. Donc, je rejoins effectivement ce silence. Alors, je ne critique pas parce qu'il y a des évêques qui ont écrit des choses magnifiques, mais si tu veux, voilà, je trouve qu'on aurait eu besoin d'un message officiel en France d'espérance sur le salut et non pas uniquement des mesures hygiénistes de comment il faut célébrer l'Eucharistie et s'il faut tremper l'hostie dans le calice ou pas la tremper, quoi. Donc, alors je vois que ça réagit, mais parce que... Non, mais voilà, donc mais c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre dont je vous parle tout le temps. Mais c'est parce que je crois que c'est une réflexion sur notre foi et sur ce que nous croyons. Et tout est lié, si tu veux. Donc oui, j'ai été un peu mal à l'aise du silence de l'Église, mais pas de tous les évêques, attention. Hein. Donc je suis d'accord, je m'étais promis de ne pas le dire, mais c'est loupé. La deuxième réflexion, c'est sur les vitres brisées. Alors, je ne dis pas que j'ai cassé des vitres. Hein. Je dis simplement, j'ai dit deux choses à propos des vitres. C'est la première, c'est que si mes parents avaient... Vous savez, les religieux, on est très attachés à nos parents hein, parce qu'on n'a pas de descendance, donc on s'accroche à notre ascendance. Donc, mes parents, c'est un peu mon trésor. Quoi, hein. Donc, si mes parents avaient été en maison de retraite enfermés pendant 2 mois, moi, clairement, je serais allé casser un carreau et les sortir de là. Et puis, tant pis, quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Et la deuxième chose, c'est que je parlais des vitres, mais je ne voudrais pas croire que ça a été mal interprété. Il y a des équipes soignantes qui ont décidé d'aller voir les patients derrière les carreaux, derrière les vitres. Mais ils n'ont pas brisé les vitres. Hein. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. Et ensuite, la troisième réflexion, j'ai un peu moins compris, mais je vais essayer d'interpréter. C'est la question que Dieu ne laisse jamais souffrir les gens seuls. C'est vrai, Dieu nous rejoint dans notre solitude, Dieu nous rejoint dans notre souffrance, mais nous avons quand même une mission de croyants et de chrétiens d'être auprès de ceux qui sont seuls et d'être auprès de ceux qui souffrent. Et je crois que c'est la mission des soignants. Lorsque la mission des chrétiens rejoint la mission des professionnels. Moi, je crois hein, clairement, alors ce n'est pas très politiquement correct de dire ça, mais la médecine et la profession de soignant, elle est profondément chrétienne, si vous voulez. Moi, évidemment, on laïcise de plus en plus les milieux médicaux et les hôpitaux, mais en fait, globalement, fondamentalement, c'est un métier d'inspiration chrétienne. Ben, y a pas de surprise à ça. Mais vous voyez, on n'y pense jamais, mais le mot hôpital vient de l'hospitalité. Et l'hospitalité vient de la parabole du bon samaritain, parce que le bon samaritain prend soin de l'homme blessé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il le met sur sa monture, c'est-à-dire sur son cheval ou sur son âne, et il conduit l'homme blessé à l'hôtellerie. Mais l'hôtellerie, dans la parabole du bon samaritain, représente l'hôpital, parce qu'elle est hospitalité. Donc, vous voyez, même l'hôpital, il est chrétien, il est du bon samaritain, et il est évangélique. Donc clairement, pour moi, la médecine, c'est chrétien, c'est évangélique. Voilà, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais tant pis, hein. Voilà, merci beaucoup.
Vous êtes encore en mute, je pense.
Merci à vous et bon pèlerinage.
Vous m'entendez ? Ah voilà, pardon. Pardon, je reprends juste le micro, juste une seconde, parce que je pense que le point que j'ai essayé de dire n'a pas été tout à fait retranscrit finalement. Je me permets. En fait, mon point n'était pas vraiment celui-là. Je me disais juste que je trouvais qu'on avait beaucoup à apprendre des non-chrétiens pendant la pandémie. En particulier, j'ai trouvé qu'eux se posaient moins la question de où est-ce que Dieu m'attend, etc., etc., et écoutaient plus leur élan de solidarité qui les amenait à rompre la solitude de ces personnes âgées et donc à casser des vitres. C'était ça mon point. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des chrétiens qui se disaient Dieu est avec lui et Dieu est avec lui sans danger, donc ça me permet, moi, de ne pas justement casser ces vitres qu'il fallait sans doute aller casser, bon, au sens métaphorique du terme.
Très bien, mais je trouve que c'est intéressant comme réflexion, merci beaucoup. Hein. Mais je crois que tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que on a peur de notre foi, si tu veux, et c'est pour ça qu'on se cache derrière des discours hygiénistes où on essaye d'être gentil, d'être coopératif. Mais clairement, on est remué dans notre foi, et notre foi au salut est remise en question dans ce genre de pandémie. Et c'est pour cela que de l'Église, on attend un message fort de foi, d'espérance et d'amour. Les vertus théologales nous rejoignent forcément. Donc, tu as raison de dire ça, et peut-être que les non-chrétiens ont moins peur que nous, mais parce que, évidemment, notre foi est difficile à annoncer, et devant la société, le pays, on a toujours un peu peur d'assurer les autres que le salut, c'est une réalité, qu'on y croit, que c'est pour de vrai, et que Dieu, ce n'est pas une idée, mais c'est un être personnel qui est avec nous, même dans la souffrance. Voilà. Donc, je conclue comme ça, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais cette dernière réflexion est très intelligente et très intéressante. Voilà. Merci beaucoup. On termine voilà, sur les vertus théologales. Merci à vous, bon pèlerinage. Voilà, je vous ai dit au revoir trois fois, mais merci à vous. Au revoir, à bientôt.